Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience, le Centre de Culture Scientifique de Bordeaux et la librairie Mola à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Cédric Villani. Cédric Villani, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle ECHO, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot ECHO.
En avant.
Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement?
Je vais prendre un événement d'apparence anodin, mais qui a été le démarrage de tout mon engagement. C'est ce jour de quatrième dans un petit préfabriqué au lycée Dumont-d'Urville, au collège Maurice Ravel, pardon, à Toulon, où j'habitais alors, où mon prof de maths a commencé à nous expliquer ce que c'était qu'une démonstration. C'était le tout début.
Si je vous dis c'est comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère?
Le plus désespérant, c'est l'idée qu'en cas de problème, quelqu'un va venir le régler pour vous et que c'est le boulot de quelqu'un au sommet quelque part. Non, c'est à nous de faire le job.
Si je vous dis H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus, vivant ou mort?
C'est impossible, tellement impossible de répondre. D'habitude, souvent dans ce genre de questions. Alors, si l'un de mes grands héros, c'est le géographe anarchiste Élisée Reclus, à la fois pour son engagement dans la cause animale, mais aussi sa grande carrière universitaire dans la géographie humaine. Mais pour changer un peu, je vais rendre hommage à un vivant que j'ai revu il n'y a pas longtemps après des années sans le voir, parce que je suis revenu dans le monde de la recherche après 12 années d'écart. Et il y a quelques semaines, en visioconférence, je redonnais une conférence dans le séminaire de recherche de physique statistique de Joël Leibowitz. Joël a 95 ans, il est toujours professeur à Rutgers. Il n'y a pas de limite d'âge et de retraite dans les universités américaines. C'est toujours lui à 95 ans qui invite les conférenciers, qui est le principal animateur de la conférence. C'est un rescapé des camps de concentration. Toute sa vie consacrée à la physique statistique a aussi été donnée mon domaine principal. Et quand vous voyez un profil comme ça mettant tant d'énergie jusqu'au dernier souffle au plaisir de chercher et de comprendre, c'est quelque chose qui est tellement inspirant.
Et enfin, si je vous dis haut comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste?
Mes élèves à la fac, j'enseigne à Rennes, j'enseigne à Lyon. J'ai des élèves à qui j'enseigne aux uns la théorie de l'équation de Boltzmann, aux autres le transport optimal de Monge-Kantorowicz, à d'autres l'intégration de Lebesgue, encore à d'autres la mathématique de l'économie. Et je vois là de l'optimisme, des jeunes qui travaillent et qui sont heureux de chercher et de comprendre. Ça fait plaisir, mon ami.
Formidable. Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, vous êtes, vous l'avez dit, professeur à l'Université Claude Bernard Lyon 1, membre de l'Académie des sciences, lauréat de la médaille Fields. Pour ceux qui ne le savent pas, mais tout le monde le sait dans la salle, c'est ce qu'on appelle de temps en temps le prix Nobel de mathématiques. Un jour, il faudra qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Mais voilà. Au-delà des titres...
En vrai, personne ne sait trop.
Ah, c'est une question sans réponse?
Bon, il y en a comme ça dans la vie. Quand on a ouvert le testament d'Alfred Nobel, on s'est rendu compte que mathématiques n'étaient pas sur la liste. On n'a pu que se perdre en conjectures. Certains ont évoqué une histoire de femme entre Nobel et Mittag-Leffler. Aucune raison de le penser. On laisse courir le bruit, nous autres mathématiciens, parce que ça met une bonne réputation sur le sex-appeal des mathématiciens. Et puis voilà.
En fait, il y a une explication, finalement, vous voyez.
On peut toujours trouver une explication quand on veut.
Et donc, au-delà des titres et des médailles, vous êtes surtout un infatigable ambassadeur de la science et de la mathématique en particulier. Vous publiez aux éditions du Cherche Midi un livre tout à fait passionnant qui s'intitule « Leçons de mathématiques joyeuses ». Ça sent l'oxymore quand même entre la leçon et le côté joyeux, mais...
Au contraire, j'y voyais un pléonasme.
Alors, quand on le feuillette... On y voit de nombreuses formules. Alors, au début, je dois avouer que j'ai entamé la lecture avec un peu d'appréhension, avec mon petit niveau, mon humble bagage de mathématiques pas forcément suffisant.
J'imagine, suivant à grosses gouttes, en ouvrant la première page, un petit crayon à la main pour prendre des notes.
Et ben justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et pourtant très vite, je me suis pris à me passionner pour les aventures scientifiques que vous racontiez. et même à m'intéresser aux formules que vous expliquiez et que je me suis amusé à essayer de comprendre, et j'en ai compris une partie.
Combien de temps, combien d'années après votre dernière rencontre avec une formule ?
Une vraie formule ?
Ouais.
30 ans.
Et on croit que...
Non, c'est resté.
Et voilà, c'est resté. C'est comme le vélo.
Oui, j'avais besoin de roulettes au début quand même. Et donc, c'est à la fois un livre d'histoire de la science, mathématiques, un livre de récits d'aventures, de pionniers, de femmes, d'hommes qui succèdent pour repousser les frontières. C'est un livre sensible aussi, où on peut toucher du doigt la beauté d'une formule, l'élégance d'une démonstration et la poésie d'une controverse. Alors, on y croise une galerie de portraits, de tas de scientifiques dont on connaît les noms, mais dont on ne sait pas trop qui c'était. Mais en fait, vous nous dites aussi qui c'est, vous nous racontez leur destin. Et c'est passionnant. Poincaré, Euclide, Boltzmann, John Nash, Sofia Kavalevskaya.
Kovalevskaya, la grande Sofia. Parfois Sonia, on trouve les deux.
Ah bon.
Et comme elle était d'origine russe et que ça a été orthographié, transcrit de plein de façons, en vrai, il y a au moins une vingtaine de déclinaisons différentes de son prénom et de son nom de famille. La mathématicienne, historienne et romancière Michèle Audin, récemment disparue, lui a consacré un livre incroyable.
Avant de revenir du coup sur toutes ces aventures, dont celle de Sofia Sonia, enfin, et ses 20 prénoms,
voilà.
J'aimerais qu'on vienne sur votre aventure mathématique. Je me permets de citer les premiers mots du livre, hein. J'ai lu le reste, hein, mais c'est quand même les premiers mots m'ont tout de suite touché.
Ah, ça se marre.
Quand un intervieweur cite les premiers mots, on se dit, tiens, il n'a pas lu le reste, mais ce n'est pas le cas. Mais par contre, les premiers mots, c'est « La science n'est pas un beau diamant bien taillé et stérile, c'est un monumental jardin chaotique, plein de fleurs colorées, d'arbustes foisonnants, poussant sur de la tourbe où les nouveaux venus se nourrissent des graines et des restes de leurs aînés et où une variété inconnue vient régulièrement fleurir à un emplacement imprévu. » Ça m'avait rassuré par rapport aux formules que j'avais vues en feuille.
Comment ? Alors, il y a une petite... quand je l'ai mis, la formule, il y a une petite... souvent, je fonctionne comme ça, avec telle ou telle citation d'un auteur que j'aime bien, et je mets une petite allusion cachée que d'habitude, personne ne remarque. Il n'y a que moi qui la connais. Et en écrivant ça et en faisant la comparaison entre le diamant bien taillé stérile et la tourbe féconde, j'avais en tête deux vers d'une chanson du chanteur italien Fabrizio De André. « Dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fior. » Des diamants jamais rien ne naît et de la tourbe naissent les fleurs. C'est la fin d'une de ses chansons les plus célèbres, Via del Campo.
Formidable. Je sais pas après tant d'érudition comment enchaîner.
Allez-y.
Alors, la question c'est comment on arrive à écrire toutes ces lignes très poétiques alors que, comme tout le monde, vous avez commencé les mathématiques sur les bancs de l'école. En d'autres termes, quelle est votre histoire d'amour avec la mathématique? Est-ce que c'est un coup de foudre, une découverte continue, une réconciliation sur l'oreiller ou un mariage forcé?
Ma découverte de la mathématique, c'est sans hésiter une découverte continue. Sans début marqué, je n'ai pas de souvenir d'un début, d'un commencement. Je vous ai cité tout à l'heure le cours de quatrième où j'ai appris la démonstration. Mais avant ça même, évidemment, on ne commence pas par la démonstration. Ça demande une certaine aisance avec le maniement des nombres, du raisonnement. Et donc, déjà gamin, ben, j'aimais bien ça. Et à l'école primaire, j'y voyais quelque chose qui fait bon chercher, quelque chose qui est intrigant, amusant. C'est à l'école primaire que la classe la plus déterminante au niveau national pour une classe d'âge en mathématiques. Si on n'accroche pas en primaire, on rattrape jamais en vrai, quasiment. Donc, pas de souvenir de début particulier, mais puis des rencontres avec des enseignants et une discipline qui s'est renouvelée sous mes yeux. Quand j'étais collège et lycée, c'était la géométrie euclidienne, la géométrie du triangle qui me fascinait. Quand j'ai fait mes classes préparatoires, c'était l'algèbre, la belle algèbre avec son architecture de structure qui était chère à mon cœur. Quand je me suis retrouvé à Normale Sup pour continuer, c'est l'analyse qui est venue ravir ma flamme. Et puis, pour la thèse, pour le coup, ça a été le mariage arrangé qui s'est changé en un coup de foudre. Parce que, d'abord, j'ai fait ma thèse dans la foulée d'un passage politique qui s'appelait « Président de BDE ».
Vous avez été président de BDE.
J'ai été président de BDE à Normale Sup. Et ça a bien failli être la fin de ma carrière scientifique, avant même de commencer. J'aimais beaucoup ça. Un grand plaisir à arranger les choses, organiser, me retrouver jeté dans le bassin de la cour centrale normalienne à 4 heures du matin, après une AG enflammée consacrée au vote du budget, ce genre de choses. En revanche, c'était pas bon pour ma thèse, ça. Incontestablement, ma thèse n'avançait pas. Et heureusement, d'abord, le sujet de thèse, c'était mon tuteur de l'époque, Yann Brunier, qui a eu beaucoup d'influence, m'a arrangé, qui a fait en sorte que je sois élève de Pierre Lullion. C'est un peu avant que celui-ci reçoive la médaille Fields lui-même, en pressentant qu'il y avait que sa médaille serait un avantage pour ma carrière. Et puis, qui avait en tête que le sujet dans lequel il me mettait me permettrait de prendre un poste très intéressant, de caïman, comme on disait, agrégé préparateur à Normal Sup. C'est des sortes de postes où vous êtes intermédiaire entre les élèves et les enseignants. Poste très intéressant. J'avais pas du tout ça en tête. Je me suis fait manipuler aussi bien sur le sujet que sur la carrière, mais ça m'allait très bien après. Je suis effectivement devenu caïman. Ça a été peut-être le meilleur poste que j'ai jamais occupé. J'ai effectivement mis ma thèse sur l'équation de Boltzmann à laquelle je connaissais rien. Et ça a été un peu piteux, la première séance avec mon directeur de thèse, quand il a fallu que je lui explique ce que j'avais compris d'un article de recherche et vu de lui, à savoir rien du tout. Et puis, je suis tombé en amour du sujet. Ça arrive, le mariage arrangé dans lequel la passion naît. Et ça a été la grande, grande aventure passionnelle avec l'équation de Boltzmann. Une aventure qui a eu ses retours de flamme et ainsi de suite. Quand je me suis remis à la recherche après 12 ans de mise de côté, en partie pour les aventures parlementaires, mais avant ça même pour mes aventures administratives à la direction de l'Institut Henri Poincaré. Donc quand j'ai repris la recherche et republié après 12 ans, le premier problème sur lequel j'ai avancé, résolu quelque chose qui me tenait énormément à cœur, c'était sur un sous-sujet dont m'avait parlé mon directeur de thèse dès le premier jour de ma thèse. On était en 1995, peut-être, début 1995, à 30 ans d'écart. Et ce sujet que j'avais travaillé dans ma thèse, que j'avais avancé, qui n'avait pas abouti, qui s'est retrouvé bloqué pendant quelque chose comme 25 ans, je l'ai vu d'un coup revenir, par un coup de chance extraordinaire pour moi, juste après que j'étais dégagé de mes obligations parlementaires. Genre, quelques mois plus tard, le sujet qui n'avait pas bougé pendant 25 ans, il a frémi. Et j'arrive, je reçois cet article de deux chercheurs que je connais qui montrent qu'ils ont résolu un truc qui me tenait vraiment à cœur. Et d'un coup, je réalise, waouh, que c'est beau! Mais bon sang, pourquoi c'est pas moi qui ai résolu ça? Puis je réalise, mais s'ils savent démontrer ça, alors forcément, on doit pouvoir faire ça. C'est juste impossible que le « ça » soit démontré sans que j'en sois. Bon sang, je vais m'y remettre tout de suite. En commençant par me replonger dans mes propres articles d'il y a 25 ans. Waouh, c'est pas facile. Waouh, comment il a eu ces bonnes idées, le gars? Ah, et puis on s'y remet. Et puis après quelques mois fébriles, à 3, on a craqué le problème. Un des moments émotifs dans ma vie.
Donc une histoire d'amour continue qui prend différentes formes. Et vous avez fait des infidélités avec d'autres disciplines scientifiques ou...
Ouais, c'est arrivé aussi. Je n'ai pas été toujours très sage. D'abord, il y a eu de l'infidélité avec les carrières administrativo-politiques. Avant même le passage au Parlement, j'ai été directeur d'unité et d'institut pendant 7 années. Je me suis occupé dans ce cadre-là de mettre en place un fonds de dotation, lever des fonds publics et privés, alors beaucoup de publics pour un institut de culture scientifique, le musée Poincaré à Paris, dans le quartier latin. Et puis, j'ai été happé par la vague de l'intelligence artificielle, pas en tant que pratiquant et programmeur, mais en tant qu'analyste, programmeur, rapporteur, préparateur de rapports, de stratégies, de choses comme ça. Encore aujourd'hui, j'en fais des caisses sur des conférences. Presque chaque jour, je reçois une invitation, j'en honore qu'une petite partie, hein, à venir faire telle conférence ou à exposer tel problème en lien avec l'intelligence artificielle. Et même aujourd'hui, même alors que je vous parlais de ce grand amour qui a continué, force est de constater que ça reste une minorité quand même dans mon emploi du temps. bien rempli.
Dans le livre, vous dites toujours la mathématique. Alors, c'est très perturbant pour voilà. Alors que moi, on m'a toujours enseigné les mathématiques. Vous parlez de la science mathématique ou de l'art mathématique. Alors, si on essayait de la définir, quelle est la place de la mathématique dans la gamme des sciences? Est-ce qu'elle a une place spéciale?
Réponse oui. Mais avant la mathématique, je pourrais même renverser la question. Pourquoi vous vous dites les mathématiques?
Parce que je fais ce qu'on m'a dit.
Eh bien, vous pourrez m'en savoir gré de vous avoir remué de cette attitude conformiste qui ne vous vaut pas.
Je le dirai à tous mes enseignants, ça va alors.
Voilà. Alors, la mathématique, oui, c'est une science, c'est-à-dire un domaine du savoir humain dans lequel le savoir s'acquiert par la remise en question continuelle de ce qui est su, pas su, l'interrogation, les problèmes et la confrontation des points de vue avec l'exposé sincère des raisonnements et dans lequel les uns et les autres se critiquent et dans lequel il y a un consensus qui s'établit peu à peu. Ce qui est singulier en mathématiques par rapport aux autres disciplines, d'abord, c'est que les problèmes mathématiques s'appuient seulement sur les idées et sur le raisonnement, pas sur les faits matériels, de sorte que, comme le disait Albert Einstein avec beaucoup de respect, c'est la seule science dont les conclusions soient valables éternellement, sans être remise en cause par les nouvelles explorations ou les nouvelles observations du monde réel.
Ça n'arrive pas.
Ça n'arrive pas parce
c'est-à-dire qu'on est toujours en conquête d'un horizon qu'on repousse sans remettre en cause, sans possibilité de remettre en cause ce qui a été fait dans le passé.
Ce qui a été fait dans le passé reste juste. Sauf si on s'est planté dans le raisonnement, ce qui arrive, mais plus le sujet est rabâché, repris, revu sous un autre angle, et ainsi de suite, plus on a de certitude. Parfois, il arrive qu'on remette en cause certains principes fondamentaux, certains axiomes, comme on les appelle en mathématiques. C'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a même eu une crise existentielle au tout début du XXe siècle, quand on a découvert des paradoxes qui semblaient insurmontables. Et on s'est dit, est-ce que tout l'édifice qu'on a bâti depuis le début repose sur du vent? Le paradoxe est assez poétique. C'est ce qu'on appelait le paradoxe de la... Enfin, en théorie des ensembles, c'était une variante écrite dans le langage de la nouvelle théorie des ensembles de ce fameux paradoxe du menteur d'Épictète. Quand Épictète vous dit « je mens », s'il ment quand il dit qu'il ment, est-ce qu'il ment? S'il ment, ça veut dire qu'il ne ment pas, mais s'il ne ment pas, donc il ment. Contradiction, ça veut rien dire, surchauffe, les circuits neuronaux brûlent tout. Bon. Et bien là, le jour où Bertrand Russell dit « considérons l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes », eh bien, si l'ensemble s'appartient à lui-même, alors il ne doit pas s'appartenir. Et s'il ne s'appartient pas, donc il s'appartient. Surchauffe, ça ne marche pas. Donc c'est une phrase même qui n'a aucun sens. L'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas. Et là, crise existentielle, les mathématiciens doivent tout remettre en cause, etc. C'était une grande crise dans l'histoire mathématique. Et de cette crise est née à la fois la logique moderne, avec les noms des grands logiciens de l'époque, les Hermelot, Frankel et autres, Peano, puis Gödel, mais aussi les prémices de l'informatique moderne. Et donc, c'est comme si de cette crise sont nés dans des directions presque diamétralement opposées un fil qui allait mener à des considérations extrêmement abstraites où on s'interroge sur la façon dont on raisonne sur le raisonnement, et de l'autre côté, des fils extraordinairement concrets qui sont comment calculer vite, bien être sûr que le résultat tombe, savoir quels sont les problèmes qui sont calculables, et ainsi de suite. Peut-être une des époques les plus singulières et dramatiques dans l'histoire mathématique. Mais même une fois qu'on a résolu la crise, ben, les raisonnements du passé, on pouvait les rattraper, ils s'appliquaient encore. De sorte que tout ce qui a été démontré par Euclide, par Pythagore, par Archimède, par Thalès, même si on n'est pas complètement sûr que Thalès et Pythagore aient vraiment existé, mais tout ce qui leur est attribué, toutes les démonstrations, tous les beaux raisonnements, ils sont encore valables aujourd'hui. Alors que dans toutes les autres sciences, le savoir antique a été intégralement balayé. Ça, c'est la grande particularité mathématique. La permanence du savoir acquis. Et la deuxième particularité en mathématiques, c'est que le juge de paix, à la fin, qui vous dit, voilà, ça marche ou pas. Ce n'est pas une expérience venant du réel qui va vous dire la théorie s'applique ou pas. C'est la vérification du raisonnement. Vérification du raisonnement fait par les uns, fait par les autres. C'est la solidité du raisonnement à la fin qui fait qu'en mathématiques, un savoir est acquis. Alors, c'est donc une approche dans laquelle le cœur de l'acquisition du savoir repose sur le raisonnement déductif. Et le raisonnement logique déductif est une forme de pensée qui, en vrai, parce que la démonstration, c'est si, donc, alors, donc, etc., etc., c'est une forme de pensée qui, en vrai, est relativement rare d'usage dans la vie courante. Et en général, on utilise beaucoup plus le raisonnement inductif dans lequel on généralise les exemples. C'est comme ça que nos enfants apprennent à cataloguer le monde, apprennent à parler, etc. Ou le raisonnement abductif, c'est-à-dire à la suite d'indices. Vous voyez, je sais pas, sur la scène du crime, je sais pas, une écharpe avec des araignées, une broche, un chapeau. Vous dites, ah, mais c'est Villani l'assassin, sans doute. Bon, même si vous n'avez pas de preuves ou de généralisation, mais il y a des indices là sur la scène du crime qui vous laissent.
C'est lui le mort.
Pardon ?
Ou c'est lui le mort ?
Peut-être aussi, c'est vrai aussi, c'est possible aussi.
J'aimerais qu'on reste un peu sur ce côté un peu sensible. Vous dites qu'il n'y a pas d'incarnation, mais dans le premier chapitre sur les chauves-souris, vous dites que tout est mathématique. Alors, je caricature qu'on peut lire le monde au regard de la mathématique, que ce soit dans le vol de la chauve-souris, dans l'espace dans lequel il se meut, dans plein de choses. Et je me suis demandé si vous étiez un peu comme Sofiane Pamart, qui a l'oreille absolue et qui un jour disait que lui, il était synesthésique et qu'il voyait les notes en fait de tout ce qu'il entend, il le voit en partition dans sa vision. Je me suis demandé si ça se trouve vous aviez la même chose et qu'en permanence vous voyiez les équations du monde tout autour de vous.
Résolument non. C'est décevant, mais c'est comme ça. Et je dirais, c'est comme si, alors il y a effectivement une fine cloison, une membrane qui sépare la réalité physique de la réalité mathématique. De sorte, même s'ils sont des mondes différents, ils communiquent. Ils peuvent se passer des ondes l'une l'autre. La pensée mathématique tambourine à la porte du monde réel et vice-versa. Il y a des allers-retours dans les deux sens. Le monde réel inspire des concepts mathématiques et les concepts mathématiques permettent une lecture du monde réel. Bien des grandes découvertes du monde réel, la plupart en vrai de nos découvertes profondes du monde réel, n'auraient pas pu se faire sans mathématiques. Découverte des atomes, découverte dans le monde mathématique et confirmée dans le monde mathématique plus d'un demi-siècle avant qu'on puisse les observer. Et on a fait, pour le pire plus que pour le meilleur, la bombe atomique avant de pouvoir observer les atomes. Mais on savait que ça marcherait. On avait la certitude de l'existence des atomes. Il y avait toutes les vérifications et la mathématique avait joué un rôle majeur pour ces vérifications et pour, même au début, imaginer leur existence. Donc, les atomes, la découverte des lois de l'astronomie, donc le monde à très petite échelle comme à très grande échelle, la découverte des trous noirs, l'observation des ondes gravitationnelles, tout ça des choses qu'il aurait été juste impossible de découvrir sans les modèles, les équations, le formalisme, la pensée mathématique. Et des choses impossibles même, tellement hors de notre monde qu'on ne peut pas les concevoir dans notre cerveau. Pensez, les ondes gravitationnelles qu'on observe en 2015, je crois, ou 2016, c'est la trace de la collision de deux trous noirs il y a quelques milliards d'années. Des trous noirs dont chacun est plus massif que notre Soleil. Et déjà ça, des milliards d'années, ça veut dire quoi ? On peut pas penser à un milliard d'années. De trous noirs, on peut pas penser à un trou noir qui se rencontre. On peut pas imaginer le choc monstrueux que c'est. Et l'onde de choc, on est passé à travers, ou plutôt elle nous est passée à travers. Quand l'onde de choc nous est passée à travers, vous et moi, nous avons un peu changé de taille.
C'est donc ça.
Voilà. Pas beaucoup. À peu près un 10 milliardième de la taille d'un atome. En fluctuant. Et on a pu l'observer, ça. L'observer et le mesurer. Tout là-dedans semble être un conte pour les enfants. Tout est vérifié et collé tellement bien avec les calculs et les prédictions mathématiques, qui n'a même pas eu de contestation dans la communauté scientifique. La courbe observée par les détecteurs et le dispositif de captation super malin qui avait observé ça correspondait pile poil à la courbe qui avait été prédite par la combinaison des experts en cosmologie, experts en simulation numérique, experts en équation de la relativité générale, etc. etc. Donc, au final, si on compte les personnes qui ont mis en place des dispositifs expérimentaux, des centaines de milliers de personnes impliquées directement ou indirectement dans cette aventure, mais ça collait parfaitement. Donc, cette adéquation entre le monde réel et le monde mathématique est juste extraordinaire. Très inspirante pour l'exploration du monde réel, mais très inspirante aussi pour les découvertes mathématiques. Les sujets dans lesquels j'ai fait ma carrière en mathématiques, c'était l'équation de Boltzmann, inspirée par le besoin de comprendre la théorie des gaz, des gaz raréfiés, qui naît au 19e siècle, inspirée par l'observation des gaz, mais aussi par la naissance de la thermodynamique, cette science des échanges de chaleur et de température, la science des frigos et des feux et des moteurs.
Et de l'entropie.
Et de l'entropie, merci. Donc, une inspiration très concrète. J'ai fait carrière aussi dans le transport de Monge-Kantorowicz, comme on dit, un sujet qui est né à la fois de l'imagination du mathématicien Gaspard Monge, s'intéressant au déplacement, au problème de déplacer au moindre coût des objets intéressants, et de Kantorowicz, à qui on avait demandé de résoudre des problèmes de contreplaqué. Contreplaqué, pas sexy le contreplaqué, mais ça a donné des théories, ça a inspiré de fil en aiguille des théories mathématiques extraordinaires qui ont eu des retombées en géométrie, en mécanique des fluides, en physique des diffusions, etc., etc. Et puis, j'ai fait ma carrière dans l'amortissement Landau, qui, lui, a été inspiré par la compréhension des plasmas. Donc, même si je suis clairement un mathématicien, ma carrière s'est faite dans les raisonnements, dans ma capacité à enchaîner les concepts, les raisonnements, les formules et des démonstrations qui pouvaient faire jusqu'à 200 pages avec des collaborateurs variés. À chaque fois, ces domaines ont été inspirés par des sujets, des expériences qui étaient extrêmement concrètes.
On voit bien tout ça, on voit bien votre passion et on sent le côté sensible et le côté beau. Donc, quand vous le décrivez, et c'est quelque chose qui transparaît énormément dans votre livre. J'aimerais revenir sur 2-3 points sur cette question de la beauté. Qui pour moi est un vrai message. La beauté, je l'ai ressenti moi une fois, je crois, dans ma toute petite expérience mathématique. C'était avec les nombres imaginaires que j'ai trouvé ça juste sublime comme démonstration. Peut-être qu'on y reviendra parce que je peux pas l'expliquer, mais j'ai quelqu'un qui pourra l'expliquer. Je trouve ça beau. J'ai découvert aussi une tablette babylonienne qui a un nom barbare qui s'appelle YBC7289. Et vous dites, les archéologues, j'imagine qu'on travaille dessus avec les mathématiciens, il y a une tablette qui montre le premier raisonnement mathématique, mais à pure fin de plaisir.
Oui, alors, cette petite tablette, c'est quoi? C'est grand comme ça, c'est une petite tablette en argile qui a été préservée, je ne sais plus combien, 4000, 5000 ans. Elle est dans la collection de Yale, je ne sais plus pourquoi l'Y c'est pour Yale, je ne sais plus si BC c'est pour Before Christ ou pour autre chose, mais en tout cas, c'est partie de ces collections d'archéologie. Elle vient de l'ancienne Mésopotamie, hein, du côté de l'Irak actuel, qui était un endroit où se développaient de façon très tôt des civilisations comme on les entend, comme on a l'habitude, avec des cités, des métiers, et aussi des scribes qui étaient exercés à la pratique mathématique, avec des maîtres qui leur donnaient des exercices et tout ça. Et dans cette tablette, on a pu repérer. Alors, c'est des chiffres cunéiformes, vous voyez, des espèces de clous verticaux, horizontaux, qui sait quoi. On sait que les Babyloniens comptaient en base 60. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons encore aujourd'hui une subdivision.
Ouais. L'heure.
L'heure en 60 minutes. C'est Babylonien. Directement des Babyloniens. Et tellement bien ancré que quand les révolutionnaires français ont voulu passer à l'heure à 100 minutes, ils avaient en tête qu'il fallait faire table rase de toutes ces vieilleries. Et ils ont proposé une journée de 10 heures, chaque heure faisant 100 minutes. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le peuple était prêt à se révolter. Bon. Et en tout cas, dans cette tablette babylonienne, on voit en écriture cunéiforme, donc dans cette base 60, et une sorte de développement en fraction continue, et ben, en vrai, c'est une approximation de racine carrée de 2. 1,414 quelque chose. Et c'est une approximation qui est à peu près au millionième. Et ce qui est clair, c'est qu'avec les technologies de l'époque, il ne pouvait y avoir absolument aucune application pratique, aucune motivation pratique pour faire ce calcul au millionième près. C'était vraiment pour le plaisir de l'exercice, la beauté de la précision. Précision, l'une des trois valeurs cardinales de l'un des trois attributs cardinaux de la beauté selon Aristote. Et donc ça, c'est beau. Ce très ancien vestige, ce plus ancien vestige qui nous a été transmis de calculs mathématiques sophistiqués, il a une inutilité dans sa précision qui est magnifique, car c'est encore plus beau lorsque c'est inutile, comme c'est dans Edmond Rostand.
Alors on va zapper du coup, parce que je vois l'heure qui file, on va zapper le nombre imaginaire, c'est très dommage.
Non, ils le veulent.
Vous voulez le nombre imaginaire? Parlons du nombre imaginaire. En tout cas, moi, c'était mon émotion de me rendre compte que on avait inventé un nombre qui me permettait d'aller dans un monde imaginaire, et en physique, on retombait sur nos pieds à la fin.
Absolument. Et ce monde imaginaire, au début, motivé par le besoin de résoudre des équations impossibles, trouver un nombre dont le carré est égal à moins 1, ben, il n'y en a pas, puisque le carré d'un nombre positif est positif, et le carré d'un nombre négatif est positif aussi.
Mais on avait une équation qu'il fallait trouver.
Mais on voulait. Et on voulait le trouver, et en particulier au XIVe siècle, je crois, les mathématiciens italiens de l'époque, les Cardan et autres, qui se lançaient des défis mathématiques, même des défis publics, un peu comme des bêtes de foire, c'est pas des catcheurs. Ils disaient, ah, moi je résous les équations mieux que toi, allez. Et ils avaient trouvé des astuces en utilisant ces solutions d'équations impossibles, ils arrivaient à trouver des équations de solutions bien possibles. Il utilisait comme un intermédiaire impossible vers un calcul possible. Et ce savoir, qui était complètement empirique, a été formalisé bien plus tard. Et donc, on a dit, ben, les nombres, on va imaginer que les nombres réels, c'est comme une droite. On le considère dans le plan. Et les nombres imaginaires, les nombres complexes, c'est tout ce plan. Les nombres imaginaires, c'est la droite orthogonale à ce plan. Et puis, on leur a trouvé plein de propriétés. On s'est aperçu que dès qu'on savait résoudre l'équation x carré égale moins 1, on savait résoudre toutes les équations polynomiales. Et on a appelé ça, d'ailleurs, le théorème fondamental de l'algèbre à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de propriétés du monde réel dont la meilleure explication était de faire appel à ces nombres imaginaires, un peu comme si le monde réel était, par certains côtés, la trace d'un fantôme invisible. On s'est aperçu que, dans bien des cas, ce monde imaginaire nous permettait d'avoir un regard bien plus acéré, bien plus profond. Et c'est devenu un outil dont il est absolument impossible de se passer. Moi, je suis, enfin, mon domaine, je suis un analyste en tant que mathématique, un analyste qui travaille sur des problèmes issus de la physique mathématique, et des problèmes issus de probabilité, mais on appelle ça de l'analyse réelle. Mais même si je suis un analyste réel, sans arrêt, j'utilise des nombres complexes qui sont comme un passage obligé vers tant et tant et tant de formules, comme un intermédiaire. Et alors, tout à l'heure, vous me parliez de mon premier événement, et j'ai puisé dans mes souvenirs d'enfance. Eh bien, j'ai un autre souvenir d'enfance, c'était un livre de vulgarisation mathématique que mon père avait ramené des puces un jour. Disant, tiens, peut-être ça va t'intéresser, tout ça. J'étais un gros lecteur quand j'étais gamin. J'étais tout genou, hein. Je devais être en sixième ou quelque chose comme ça. Et dans ce livre, il y avait des choses sur, la vie de Carl Friedrich Gauss, les cinq polyèdres réguliers, enfin, plein de trucs de vulgarisation. Et il y avait tout un chapitre sur les nombres emboîtés, qui parlaient des nombres entiers, les nombres fractionnaires, les nombres réels, les nombres imaginaires. Et l'auteur, dans la vulgarisation, avait tenté de faire comprendre les nombres imaginaires en utilisant une analogie avec le courant électrique, parce que les électriciens savent bien que les nombres imaginaires sont très pratiques pour représenter un courant électrique avec l'amplitude qui représente l'intensité et l'argument, comme on dit, qui représente la phase. Donc si votre nombre il est imaginaire dans votre courant, ça veut dire que sa phase il est décalé par rapport à l'autre courant qui vous intéresse au début. Et le petit gamin que j'étais, regardez ça, lisez, relisez, sans comprendre, désespérément. J'ai lu au moins 10 fois sans comprendre. Non, mais ça doit être intéressant, mais vraiment, je comprends pas. Et c'est bien plus tard, ah, mais bon sang, ça y est, je comprends. Et évidemment, il y a des concepts, il y a un âge pour apprendre et comprendre certains concepts. Il y a des choses au début qui vous sont résolument mystérieuses, et puis un jour, vous avez la clé. En recherche, c'est comme ça aussi, mais vous êtes face au mur qui est, dont personne n'a la solution. Vous êtes là au début de votre thèse, vous fracassez la tête contre le mur, vous comprenez pas, vous comprenez pas, vous comprenez pas, là, d'un coup, vous comprenez. Ou le problème dont je disais, là, tout à l'heure, le problème qu'on a résolu avec les collègues s'appelle la régularité de l'équation de Boltzmann spatialement homogène pour les potentiels très mous. Et on a démontré que la solution de cette équation de Boltzmann est toujours lisse pour tous les temps, et on a démontré avec une estimation décroissance de l'information de Fischer et de l'équation de Boltzmann. Bon, peu importe ce que ça veut dire précisément, mais en tout cas, il y a 25 ans, je me fracassais la tête contre les murs avec ce problème, en disant, mais on ne comprend pas, mais est-ce que ça explose ou pas, mais oui, non, peut-être. Et je m'étais résolu à le mettre comme un problème ouvert, grand ouvert, dans mon habilitation à diriger les recherches. Et là, maintenant, ben on comprend. Et à tout le paysage, on comprend pourquoi c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'ai fait tout un cours de 150 pages dans une école d'été l'an dernier pour expliquer en long, en large, comment ça s'inscrit dans tout un paysage qui s'ouvre. Au début, c'est complètement opaque. Et puis après, c'est tout un grand paysage dans lequel on se repère. On comprend, il y a telle et telle chose qui sont en résonance. Comme une ville dans laquelle, au début, je sais pas, vous n'arrivez même pas à trouver l'entrée. Puis non seulement vous trouvez l'entrée, mais vous la finissez par toute la cartographie. Vous comprenez où sont les forteresses, où sont les ruelles, où sont les places, etc., etc.
Ça me permet de faire la transition parce que c'est exactement ce que vous expliquez, pas ce sujet-là, mais cette démarche-là dans chacune de vos 8 leçons qui composent ce livre. Vous insistez sur l'aventure humaine, sur le continuum de mathématiciennes et de mathématiciens qui se sont succédés pour approfondir un sujet en se cognant la tête contre des tas de murs successifs. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on ne va pas passer les 8 leçons, c'est tout l'intérêt du livre que chacun les découvre, mais que, à titre d'exemple, vous nous fassiez la datation progressive de la planète Terre. Ça m'a beaucoup amusé. C'est-à-dire, la Terre à quel âge ?
La Terre à quel âge ? On sait aujourd'hui, et n'importe quel jeune curieux qui lit un peu de vulgarisation ou qui va sur, je ne sais pas, vous avez une chaîne scientifique, n'est-ce pas ? Vous me parliez tout à l'heure.
Curieux.
Voilà, curieux. Ben voilà, va trouver quelque part qu'il y a un faisceau d'indices extrêmement forts, concordants, pour vous dire que la Terre a en gros 4,5 milliards d'années. Bon. Et il y a tellement maintenant, tellement de... Ça s'inscrit bien dans tellement de théories différentes que plus personne dans la galaxie scientifique, ne contredit cette estimation. Mais pour en arriver là, quel chemin ? Première estimation sérieuse, première tentative sérieuse en s'appuyant sur un raisonnement de dater la Terre, c'était l'estimation de James Usher, qui était en son temps un des grands érudits et théologiens dans la religion anglicane, et qui datait la Terre à 4004 avant Jésus-Christ, et ça s'appuyait sur une analyse très fouillée de la Bible, ou plutôt des Bibles, de toutes les différentes versions de l'Ancien Testament. Et c'est un travail intelligent, fouillé, s'appuyant sur la seule source digne de foi à ses yeux, c'est le cas de le dire, la Bible. C'est resté l'estimation officielle de l'Église catholique jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais moins 4004, c'est la première fois. Et il faut attendre un long moment avant que ce soit remis en question sérieusement. Et c'est remis en question au milieu du 18e siècle par Buffon, qui propose quelque chose comme 75 000 ans. On gagne un ordre de grandeur, mais on est encore loin. Hein. Nombre de zéros dans 4,5 milliards, c'est 9. On commence avec 3 à Usher. Pour aller des 3 à 9, il a fallu des siècles et des siècles. Avec Buffon, on gagne un zéro. On est sur des 10 000 plutôt que sur des 1000. Buffon, bien sûr, est écrit à une époque où on ne peut pas contredire trop légèrement la voix de l'Église, et il prend quelques précautions oratoires. Il y a quelques bizarreries dans son texte que je laisse lectrices et lecteurs découvrir, comme la trop grande précision avec laquelle il évoque son résultat, mais enfin, on est sur des dizaines de milliers. Et Buffon, lui, se base sur des expériences. Il fait refroidir des globes à l'image du globe terrestre, sauf qu'un globe qui fait 1 mètre de diamètre de fer, c'est quand même pas un globe terrestre qui fait 40 000 km de circonférence. Et donc, il extrapole, c'est un raisonnement mathématique, mais qui est assez piètre en matière de modélisation, comme on dit. On avance encore, et l'étape suivante importante, c'est Fourier. Quelques décennies plus tard, Fourier, au début du 19e siècle, s'appuie sur une équation aux dérivées partielles, dont il est quasiment l'inventeur. Les premières équations aux dérivées partielles et la première démarche de physique mathématique, c'est Fourier, précurseur extraordinaire. Et Fourier, lui, s'applique sur un modèle de l'équation de la chaleur et calcule en mathématiques, à partir de certaines hypothèses, le temps qu'il faudra au globe terrestre pour se refroidir, s'il part de la fusion, jusqu'à arriver à un état qui est compatible avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas pour la température extérieure, mais pour le gradient de température quand on pénètre. Si vous allez profond dans la Terre, dans les mines, il fait de plus en plus chaud. C'est bien décrit dans Germinal, dans certains romans, dans les observations depuis les Grecs anciens. Vous descendez, plus vous descendez profond, plus la chaleur devient suffocante. Et Fourier met en rapport, montre comment utiliser cette connaissance de ce gradient pour en déterminer l'âge de la Terre, et trouve une formule magnifique, sauf qu'il se garde bien de faire l'application numérique, comme on dit. Il dit un très grand nombre de siècles et laisse aux autres le soin d'en déduire la valeur exacte. La valeur exacte, c'est Kelvin, le plus grand physicien de son époque, qui la calculera et qui en trouve... lui a une estimation qui se compte en dizaines de millions d'années.
Rajouter deux zéros.
Rajoutant encore deux zéros. On a là les dizaines de millions d'années. Donc, avec les millions, on a six zéros. Avec les dizaines de millions, on a sept zéros. On est encore loin des neuf. On semble qu'on ait quand même fait un bon une partie du chemin. Mais quand même, 20 millions d'années, c'est même pas un centième de la bonne valeur. Ça a mené... et c'est là-dedans que la leçon s'inscrit, à l'une des plus grandes disputes de toute l'histoire des sciences. La gigantesque dispute entre les physiciens et les biologistes. Les biologistes évolutionnistes d'un côté, menés par Darwin, Huxley et quelques autres, Wallace. Les géologues d'autre part, qui faisaient les grandes fresques des temps géologiques, le Cambrien, tout ce que vous voulez, jusqu'à nos jours, avaient besoin de milliards d'années pour faire tenir toutes leurs observations. Mais les physiciens, menés par Kelvin, les chimistes disaient non, mais c'est bon, l'équation de la chaleur, le raisonnement mathématique super précis nous dit que ça peut pas être plus que quelques dizaines, ouah, limite 100 millions d'années. Grande bataille, dont on est sorti grâce au grand physicien Ernest Rutherford, un néo-zélandais iconoclaste, père de la physique nucléaire, qui a réconcilié les uns et les autres sur la base d'un raisonnement parfaitement faux, mais qui a mis tout le monde d'accord. Et après, en changeant encore de méthode, et en utilisant la radioactivité, cette fois pour dater, sur la base de la désintégration nucléaire, désintégration radioactive, la Terre, au cours du 20e siècle, on est arrivé à ces estimations de milliards d'années. Alors quand on refait le fil après, qu'on se demande qui le premier avait le bon nombre de zéros sur la base d'un raisonnement, hein, après, parce que vous pouvez toujours dire je parie que c'est comme ci, comme ça, mais ça vaut pas, c'est comme au loto. Bon. Et on découvre que c'est un ancien assistant de Kelvin, un physicien irlandais du nom de Fred Perry, qui avait lui compris où était la faute dans le raisonnement de Kelvin, l'avait publié, mais n'avait pas osé le dire trop bruyamment, par respect peut-être pour son maître, qui était le plus célèbre physicien de son temps, hein, Kelvin, et qui, le premier, avait, sur la base d'un raisonnement basé sur la mécanique des fluides, estimé que ça devait se compter en milliards d'années. Il n'avait pas le bon nombre de milliards d'années, mais il donnait vraiment un raisonnement et des arguments pour dire que c'était à chiffrer en milliards d'années. Voilà une vraie histoire scientifique. C'est pas tac, 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 et c'est le plus intelligent qui a raison. C'est des gens qui se plantent, même si c'est les meilleurs. Ce sont des arguments faux qui convainquent les gens. Ce sont des arguments justes qui passent à la trappe. Et puis, au fur et à mesure du temps, tout ça s'éclaircit. Et puis, on arrive à la situation actuelle où, après avoir vu, revu, refait, refait, finalement, on comprend. Et c'est bien a posteriori qu'on comprend qui avait juste, qui avait faux, qui était un intermédiaire. Et toute la fresque est bien plus intéressante que juste le résultat. Dans les erreurs, on voit où sont les difficultés de raisonnement. Si Kelvin s'est planté, c'est pour diverses raisons. Il y a des raisons liées aux subtilités du raisonnement. Il y a des raisons liées chez lui au mélange entre convictions religieuses et convictions scientifiques. Il y a tout un ensemble de raisons qu'il est intéressant d'analyser. Les erreurs, souvent, c'est instructif à analyser. Et dans la grande histoire des sciences aussi, cette analyse d'erreur, elle est instructive.
Alors, je le dis à tous les gens de la salle, si vous voulez des dizaines d'histoires aussi passionnantes que celle-là, il y a un bouquin qui est celui-là. Et qu'encore une fois, je vois toujours mon heure qui tourne et qu'on a encore plein de sujets. J'aimerais profiter de l'opportunité qui nous est donnée de vous avoir parmi nous pour parler un peu de la mathématique dans la société française en 2025. C'est-à-dire maintenant. 26, pardon.
26 déjà, 26, mais comme 26, le temps passe.
Bonne année, tout ça, tout ça. Côté éducation, vous dites qu'on passe à côté de la beauté des maths parce que l'éducation se concentre sur la technique. Est-ce que c'est une explication à notre recul au classement international PISA qui inquiète beaucoup de monde, dont on parle beaucoup? D'abord, est-ce que c'est inquiétant? Moi, je ne sais pas dire. Mais j'ai regardé, je me suis demandé, on parle toujours du recul, on était 11e en mathématiques sur 80 pays en 2003, on est 23e. Est-ce que c'est grave et est-ce que ça s'explique? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Réponse 1, oui, c'est grave. Pas tant pour le plaisir d'être en tête de classement. La France a toujours ce fantasme d'être numéro un mondial pour ci et ça. Et la France reste numéro un mondial ou presque en recherche mathématique. Et pour le coup, c'est vrai, c'est le pays le plus décoré du monde sur les 25 dernières années. Et si on regarde sur l'histoire, c'est aussi probablement le pays le plus décoré du monde. Le seul pays qui pourrait être en compétition, c'est l'Allemagne sur l'ensemble de l'histoire et les États-Unis sur l'histoire récente. Mais en matière d'école et de résultats scolaires, on est à la ramasse. Et c'est grave, on peut dire c'est grave parce que dans un contexte où la mathématique c'est aussi un enjeu stratégique, enjeu économique, enjeu technologique, enjeu d'influence, c'est le signe d'une perte d'influence et d'un possible déclassement sur certains sujets dans l'avenir. Mais de façon plus prosaïque, c'est grave parce que ces mauvais classements, ils reflètent des millions d'heures de souffrance. De gamins en souffrance devant des énoncés qu'ils ne comprennent pas et d'enseignants en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre cela. Et gigantesque malentendu de personnes qui n'apprécient pas la beauté et cette occasion de s'élever l'âme et de se faire plaisir et de partager des choses et d'être fier de cette culture mathématique est un patrimoine de l'humanité et aussi un patrimoine français. Donc la réponse, oui, c'est grave. Est-ce que le fait de pas assez insister sur la beauté mathématique est responsable de ça? Je dirais en première approximation, pas forcément, parce que c'est un problème que rencontrent tous les pays, pas seulement la France. Partout dans le monde, on n'est pas bon, pas très bon, pour faire passer la beauté et l'enseignement se concentre surtout sur la technique. Et c'est un enjeu dans tous les pays du monde que de donner ce supplément d'âme, d'expliquer en quoi c'est beau. Pas forcément directement du ressort du scolaire, forcément que du ressort du périscolaire. Ça peut être du périscolaire, ça peut être dans la culture, ça peut être transmis des parents aux enfants, ça peut être transmis à travers les bouquins ou qui sait quoi. Le livre que vous évoquez, le livre que je publie, ne prétend pas se substituer à un manuel scolaire. C'en est pas un. C'est quelque chose qui est là pour vous parler de la culture, de l'histoire dans laquelle ça s'inscrit. Ça ne vous apprendra pas à faire une démonstration, mais ça vous expliquera pourquoi une démonstration est importante, ça vous expliquera qui a été si inventif pour faire de belles démonstrations, etc. etc. Bon. Et c'est de la même façon, je dirais, que pour parler de littérature, les romans que vous lisez, les histoires sur, je ne sais pas, les Nobel de littérature, ou qui sait quoi, tout ce qui participe à la culture peut vous motiver, tout ça, mais ça ne remplacera pas la dictée, l'exercice de dissertation, l'exercice de conjugaison, etc., qui vous apprend à bien travailler la langue, la parler et à aussi faire les exercices. Mais notre principal problème, pour le coup, sur les classements PISA, il est incontestablement au niveau de l'école primaire. L'école primaire, c'est ce qui détermine la suite. Et la mathématique, c'est une matière exigeante dans laquelle, si vous loupez une étape, vous n'arriverez pas à l'étape suivante. Les leçons, dans mon livre, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Vous commencez par la leçon 7, puis 2, puis 3, peu importe. Mais le cours de mathématiques, si vous essayez de commencer par le cours de 5e, et ensuite le cours de 6e, et ensuite le cours de 3e, ça ne marchera pas. Il y a un ordre de la complexité. Chaque année s'appuie sur les concepts de l'année précédente, et vous avez besoin d'avoir ces étapes. Et si à l'issue de l'école primaire, vous avez loupé le bagage qui est là, c'est-à-dire juste un début d'initiation au raisonnement logique, mais aussi un sens du nombre et des notions élémentaires de géométrie, vous ne pourrez pas aller plus loin, vous ne pourrez pas passer aux étapes suivantes. Et on voit aujourd'hui que sortir de l'école primaire, déjà, les connaissances sont tellement instables, tellement friables pour les jeunes qu'on ne peut pas bâtir là-dessus. Il y a des estimations, des évaluations qui ont été faites, qui montrent bien, où on demande aux jeunes de placer un demi sur un axe gradué de 0 à 1. Un demi, c'est la moitié, il faut le placer pile au milieu, entre 0 et 1. Et c'est à peine une moitié qui arrive à le mettre bien entre 0 et 1. Les autres confondent un demi avec un plus 2 ou 1,2 ou qui sait quoi. Qui sait quoi, mais un sur deux est pas acquis. Si un demi n'est pas acquis au sortir de l'école primaire, comment voulez-vous que ensuite on bâtisse là-dessus quelque chose de plus stable? Et il y en a encore plus inquiétant, c'était l'autre question qui avait été ravageuse, et je crois que c'était aussi à peine la moitié de bonne réponse. Combien de quarts d'heure y a-t-il dans trois quarts d'heure? Ouais, y a pas de piège, sauf que quart d'heure est écrit en toutes lettres et ensuite trois quarts est écrit 3 sur 4. Mais c'est bien, la question est bien, combien de quart d'heure était dans trois quarts d'heure? Et c'était genre la moitié qui comprenait pas la question, qui arrivait pas à trouver qu'il y en avait trois. Bon. Et donc là-dessus, vous voyez, l'état de sable sur lequel vous pouvez pas bâtir les fondations. Donc la priorité, l'essentiel, c'est l'école primaire et l'échelon sur lequel tout repose à l'école primaire, c'est les enseignants. Les enseignants, les enseignantes. Beaucoup plus les enseignantes, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la réalité de terrain, que les enseignants dans notre école primaire. Et là, on a un sujet qui s'appelle malaise enseignant, qui s'appelle enseignant sous-payé, qui s'appelle enseignant ballotté par les services administratifs et avec des formations qui ne fonctionnent guère, qui s'appelle problème de recrutement et qui s'appelle aussi manque de culture scientifique chez les enseignants et qui s'appelle aussi la grande anxiété qui est dans toute la société française quand il s'agit de mathématiques. On a pu à une époque se dire c'est pas grave si nos enseignantes maîtrisent pas le sujet mathématique. Elles feront apprendre la mathématique à leurs élèves avec des fiches, avec des QCM et qui sait quoi. La réponse, ça marche pas. Et on a pu se dire, même si nos enseignants sont en grand malaise, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Ce que nous disent les études PISA, quand on regarde avec du recul, quelques grandes règles qui ressortent. On voit d'abord que des systèmes très différents peuvent s'en sortir très bien et que c'est pas l'organisation en elle-même qui est déterminante. Le facteur le plus déterminant, c'est la fierté du corps enseignant et la façon dont elle se sent investie par la société d'une mission, je dis bien fierté, qu'elle va accomplir avec motivation. Cette fierté, ça passe aussi bien par les rétributions que par le fait qu'il soit bien considéré, respecté par les parents d'élèves, par le corps administratif, par les ministres et par qui sait quoi. Fierté du corps enseignant. C'est le fait que le corps enseignant puisse aussi s'approprier le sujet, le cours, et qu'il y ait une certaine liberté pédagogique. Si le cours est trop dicté, trop déterminé verticalement, ben, l'enseignant se retrouve juste dans un relais qui n'est pas gratifiant et qui passe sans motivation. Bien sûr, l'implication des parents dans le système, c'est les enfants, les enseignants, les parents. C'est la façon dont tout ça est en synergie qui est très importante. Un socle commun, on y arrive, système qui évalue bien, qui fonctionne bien à PISA, c'est les systèmes dans lesquels, justement, au sortir de l'école primaire, il y a un socle commun. Lire, écrire, compter, c'est la base, mais c'est bien là-dessus qu'on a besoin de travailler. Et puis, un bon maillage au niveau des écoles qui fait que les enfants peuvent, dans leur école de proximité, avoir... l'éducation dont ils ont besoin. Ça, c'est les ingrédients, en gros. Et ces ingrédients systémiques sont bien plus importants que, je dirais, la nature du cours en lui-même.
18h58.
Là, j'ai explosé tous vos...
Oh, bah, toutes mes fiches, là, toutes les questions, tout ça. J'en suis désolé. Donc, j'inviterai tout le monde à poser les questions sur est-ce que l'IA est la fin du mathématicien? Pas de, je la pose. Ça nous lancerait. Ça nous lancerait loin, c'est ça?
Ça nous fait bien rigoler.
Ah ben allez-y, alors du coup, on va prendre le temps qu'il faut.
Non, d'abord, pour l'instant, la mathématique est la discipline la moins affectée par l'IA. Alors, la discipline la plus représentée en IA, je veux dire, ah oui. Pour comprendre l'IA, pour faire de l'IA, etc., c'est un sujet vraiment bourré de mathématiques, bourré de statistiques, de cuisine mathématique et de cuisine algorithmique. Certains informaticiens vous disent avec dédain, c'est pas de la vraie informatique, c'est que de la mathématique, ça. Et c'est que de la cuisine, c'est vrai, c'est un sujet très, très empirique, avec du génie derrière, hein, des gens comme... Des gens comme Yann Lequin, des gens comme Demis Hassabis, tout ça, ils ont le génie dans leur façon d'aborder les problèmes, ou le Geoff Hinton. Avec maintenant, en intelligence artificielle, il y a aussi une autre dimension qui est une dimension sociétale. L'IA, c'est une discipline dans laquelle on appelle l'IA les tâches dans lesquelles on automatise des tâches qu'on aurait cru réservées aux humains et qui attirent le buzz. Mais c'est seulement quand ça attire le buzz qu'on l'appelle de l'IA. Et le fait qu'il y ait moins d'intelligence dedans participe au buzz. Et il y a la façon dont les attentes de la société économique, sociétale, messianique, parfois, vient se mélanger à la technique, donne quelque chose de très spécial à l'IA. D'ailleurs, trois personnes que j'ai citées, Lequin, Hinton, Hassabis, Hinton a reçu le prix Nobel, Hassabis aussi... Lequin a reçu le prix Turing, qui est la plus grande récompense en informatique. Hinton dit qu'il y a une bonne chance que l'intelligence artificielle extermine l'humanité. Hassabis vous dit que, selon lui, ça va soigner toutes les maladies d'ici 2030. Lequin garde un peu plus les pieds sur terre, mais vient de démissionner avec fracas de Meta et s'occupe de monter sa petite boîte avec ses compétences de scientifique dans laquelle il espère lever, je crois, quelques milliards pour mettre au point ce qu'il espère et avec des arguments assez forts être la nouvelle génération justement d'intelligence artificielle générative. Vous voyez dans ces trois profils des différences de discours et de parcours qui sont propres à l'IA. Dans aucun autre domaine des sciences, vous avez une telle mélange des questions liées à, qui relèvent de la science et des questions qui relèvent de l'économie ou de la prophétie. Donc c'est ça qui donne vraiment quelque chose de très particulier. Alors, c'est un peu un fantasme de bien des gens dans la tech, dans la Silicon Valley, d'arriver à faire un truc qui serait une sorte de mathématicien automatique. J'y vois comme un réflexe d'envie par rapport à une discipline...
La jalousie.
Voilà, de la jalousie par rapport à une discipline qu'ils admirent. Mais pour l'instant, c'est la discipline mathématique, c'est la discipline la moins affectée par l'IA. La chimie, la médecine ont été assez bouleversées, avec un impact important. La physique, un peu. Mathématiques, quasiment pas pour l'instant. Il y a divergence même parmi les matheux pour savoir si ça va... être le cas dans l'avenir et si il va y avoir des théorèmes démontrés grâce à l'IA, de nouveaux concepts démontrés par l'IA, des définitions obtenues par l'IA. Moi, je vois qu'il y a 10 ans, je demandais aux plus grands experts français, des gens comme Stéphane Mallat, médaille d'or du CNRS, et qui me disait, Stéphane disait, mais bientôt, on va avoir de nouvelles lois de la physique découvertes par l'IA ou de nouveaux concepts mathématiques trouvés par l'IA. Il y a 10 ans, il disait ça, je disais, tu crois vraiment? Et aujourd'hui, 10 ans après, il n'y a pas eu un seul nouveau concept mathématique trouvé par IA. Il continue, je dis à Stéphane toujours, tu crois vraiment? Et de toute façon, je me suis fait ma petite doctrine. Bien que le sujet IA soit fascinant et passionnant à évoquer comme débat de société, que c'est important d'accompagner, de faire en sorte que les choses se passent aussi moins mal que possible... Ma résolution prise et claironnée fièrement par tous a été qu'en tant que mathématicien, je le ferai, resterai toujours à l'ancienne. Papier, crayon, tableau noir et craie.
On arrive au terme de cet échange. Cédric Villani, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ce moment. J'ai pris grand plaisir à lire votre ouvrage, ça, je crois qu'on l'a compris. J'en rappelle le titre, « Leçon de mathématiques joyeuses, le tout au singulier », aux éditions du Cherche Midi. Vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle lors de la séance de dédicace qui est à suivre à la librairie Mola ou sur mola.com. Cédric Villani, merci.
Merci.